tueur en série fait des victimes dans l'ouest de l'état de New York aux États-Unis. Il les choisit en fonction de la couleur de leur peau. La population est terrorisée. En New York, il frappera de nouveau. Les seules traces qu'il laisse derrière lui sont des douilles de projectiles. On fait appel à un psychologue du service des sciences comportementales du FBI pour orienter les recherches. Il faut arrêter ce tueur à la haine dévastatrice au plus vite avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Le 22 septembre 1980, à Buffalo, dans l'état de New York, Glenn Dunn se rendit en auto avec Larry Robinson au supermarché. Arrivé sur les lieux, Robinson descendit de voiture pour aller encaisser un chèque. Pour tuer le temps, Dunn sortit de l'auto et s'alluma une cigarette. Vers 21h45, Madonna Gourney, une infirmière, venait de terminer son quart de travail. En route vers la maison, elle décida de s'arrêter au supermarché pour faire quelques courses. Dans l'obscurité, elle aperçut Dunn. Elle ne se sentait pas en sécurité et pressa le pas. Il y avait eu de nombreux vols depuis peu dans le secteur et elle ne souhaitait pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle marcha droit vers l'entrée éclairée du supermarché. Elle croisa alors un homme qui semblait attendre quelqu'un. Une fois à l'intérieur, elle se sentit en sécurité. Larry Robinson n'eut pas à attendre très longtemps pour encaisser son chèque. En sortant, il aperçut la voiture de Dunn au bout de l'immeuble. Il marcha dans cette direction. En tentant d'ouvrir la portière, il constata qu'elle était verrouillée. À l'intérieur, Dunn ne semblait pas le voir. Robinson fit le tour du véhicule jusque du côté du conducteur. Il se rendit compte que Dunn ne bougeait plus. Du sang coulait de sa tête. Il retourna en vitesse au supermarché pour y demander des secours. Madonna Gourney, qui en sortait, proposa alors son aide. Un gardien de sécurité l'assura que la situation était sous contrôle. L'état de Dunn était critique. Il avait reçu 3 balles dans la tête. Les ambulanciers firent tout ce qu'ils pouvaient pour lui sauver la vie, mais son cœur s'était arrêté de battre. Toutes les tentatives pour le ramener à la vie échouèrent. On constata son décès à son arrivée à l'hôpital. Les policiers, qui annoncèrent la nouvelle à ses parents, apprirent alors que la victime n'avait que 14 ans. Une équipe d'experts se mit à la recherche d'indices sur l'identité du meurtrier. Les empreintes prélevées sur la voiture provenaient toutes de Dunn et de Robinson. Le sang provenait bien de Dunn. La seule piste laissée par le tueur était constituée de quelques douilles de projectiles. L'arme utilisée était de calibre 22. On vérifia les plaques d'immatriculation de la voiture pour apprendre qu'elle avait été volée la veille chez un marchand d'auto. Les policiers interrogèrent Robinson. Il leur dit qu'il connaissait peu Dunn et qu'il ignorait que la voiture avait été volée. Il déclara qu'il s'en allait au supermarché à pied plus tôt ce soir-là, quand Dunn était arrivé à sa hauteur et lui avait offert de l'y conduire. Des amis et des membres de la famille de la victime confirmèrent par la suite que Robinson connaissait à peine Don. Pour trouver une piste, les policiers interrogèrent les résidents du quartier. Un agent trouva alors une personne qui voulait bien coopérer. Il appela un détective pour qu'il la soumette à un interrogatoire. Barbara Wozniak vivait juste à côté du supermarché. Elle déclara qu'elle avait entendu les coups de feu et vu l'assaillant. Vers 21h45 ce soir-là, elle était occupée à faire à manger lorsqu'elle avait entendu trois coups de feu. Elle se précipita à la fenêtre pour voir de quoi il s'agissait. Elle aperçut alors un homme de race blanche s'éloigner en courant d'une voiture garée dans le stationnement. Comme il portait une veste à capuchon, elle n'avait pas bien pu voir son visage. Pendant que le détective interrogeait Mme Wozniak, on lui fit savoir qu'un autre témoin du supermarché avait appelé pour offrir de l'aide. Il s'agissait de l'infirmière Myrna Gorney. Elle leur fit part de ce qu'elle avait vu.
En arrivant, j'ai remarqué qu'il y avait un homme sous un lampadaire au bout du stationnement. En sortant de mon auto, j'ai consciemment fait un détour pour l'éviter. J'étais seul et il faisait sombre. En le voyant debout à cet endroit, j'ai eu l'intuition qu'il tramait quelque chose et je ne voulais pas être impliqué.
Gorney était inquiète et elle avait regardé à la ronde pour voir si quelqu'un d'autre pouvait éventuellement l'aider si nécessaire.
J'ai alors aperçu quelqu'un d'autre. En me rapprochant de l'entrée, j'ai pu mieux le voir. Mais je me suis alors dit que si quelque chose devait m'arriver, cet individu ne me serait d'aucune aide, car il avait l'air sous l'effet de la drogue. Il ne me disait rien qui vaille.
Elle le décrivit aux policiers. Il était mince et grand, de race blanche. Il avait des cheveux foncés. Il tenait un sac de papier contre sa cuisse. Il portait des lunettes fumées à la monture métallique et il portait une veste à capuchon qui dissimulait ses traits. Cette description était intéressante car elle corroborait celle de l'autre témoin qui avait vu l'assaillant quitter la scène. Les policiers espéraient que Gorney pourrait fournir assez de détails pour que l'on puisse dresser un portrait robot. Après cet interrogatoire, les détectives du service de police de Buffalo apprirent qu'un meurtre identique avait été commis dans la banlieue voisine de Cheektowaga. La victime, Harold Green, 32 ans, fut conduite d'urgence au service de chirurgie de l'hôpital. Il avait été touché d'un projectile de calibre 22 à la tempe gauche et sa vie était en danger. Les détectives rencontrèrent sa femme dans la salle d'attente de l'urgence et lui demandèrent ce qu'elle avait vu de la fusillade. Son mari s'était arrêté dans un restaurant. Il mangeait dans sa voiture lorsqu'un assaillant de race blanche, portant une veste à capuchon, s'était approché et avait fait feu sur lui. Une employée du restaurant entendit le coup de feu. Elle aperçut le tueur quitter les lieux en courant, un sac de papier à la main. Elle alerta son supérieur. Comme l'attaque ressemblait en tout point à celle de la veille, il y avait sans doute un lien entre les deux affaires. Madame Green déclara que ni elle ni son mari ne connaissaient Glenn Dunn ou un membre de sa famille. Son mari gagnait sa vie comme ingénieur et il était un membre important de la population. Il n'évoluait pas du tout dans les mêmes cercles que l'adolescent. En fait, il n'y avait aucun point commun entre les deux victimes. Green mourut sans avoir repris conscience. Il n'y avait qu'un seul lien entre les deux fusillades. Le lieutenant Thomas Round du service de police de Cheektowaga dirigeait les analyses criminalistiques de ces deux enquêtes.
Le premier indice solide qui reliait le cas du restaurant de Cheektowaga à celui de Buffalo, c'était les douilles de projectiles de calibre 22. À cette étape de l'enquête, il s'agissait pour nous d'une arme à feu dont nous ignorions le calibre. Nous ne savions pas encore quel type précis d'arme à feu avait laissé cette douille.
Le même soir, les détectives affectés aux homicides furent dépêchés sur la scène d'une autre fusillade. C'était la troisième attaque d'un homme noir en moins de 36 heures. Emmanuel Thomas, 31 ans, avait été tué au moment où il traversait la rue dans un quartier résidentiel. Grâce aux témoins, les enquêteurs purent reconstituer la suite des événements. Une heure plus tôt, Frenchy Cook avait quitté la maison de son ami Emmanuel Thomas. Ce dernier, qui était peintre en bâtiment, dit à sa femme qu'il partait faire une course et qu'il reviendrait tout de suite après. Son voisin, Thomas Jackson, aperçut les deux hommes se diriger à pied vers l'intersection des rues East Ferry et Zenner. Thomas et Cook traversaient la rue quand le meurtrier sortit de la pénombre. Il sortit une arme à feu d'un sac de papier et tira sur Thomas à quelques reprises à la tempe gauche. Thomas s'affaissa. Frenchy Cook était en état de choc. Il n'avait pas vu l'assaillant arriver. Il ignorait qui pouvait en vouloir à la vie d'Emmanuel Thomas. Un adolescent qui avait assisté à la scène de l'autre côté de la rue décrivit le suspect. C'était un homme blanc, d'environ 1,75 m et portant une veste à capuchon. L'équipe d'experts légistes recueillit des douilles de calibre 22 semblables à celles trouvées sur les deux autres scènes de crime. On les envoya au laboratoire pour les comparer aux autres. Le détective John Regan, du service des homicides de Buffalo, n'avait pas d'autre piste.
Dans ce cas en particulier, nous avions seulement deux dénominateurs communs. Les victimes étaient des hommes de race noire et on les avait tués avec une arme de calibre 22. Autrement, les victimes n'avaient aucun lien social ou personnel entre elles, ni aucun lien apparent avec le meurtrier.
La presse surnomma le mystérieux assaillant le tueur à la 22. Il était déjà à la recherche de sa prochaine victime. Le tueur au calibre 22 s'attaquait à des hommes de race noire à Buffalo dans l'État de New York. Il avait fait trois victimes en moins de 36 heures et n'avait laissé que peu d'indices derrière lui. Emmanuel Thomas était sa dernière victime. Il avait été abattu pendant qu'il traversait la rue devant sa maison. On pratiqua une autopsie. Les médecins légistes remarquèrent des brûlures causées par de la poudre près des blessures de projectiles. Cela signifiait que le canon de l'arme était à une courte distance de sa tempe. À en juger par les traces de brûlures et leur gravité, le tueur devait se servir d'un fusil au canon tronqué. Les médecins retirèrent de la tête deux projectiles de calibre 22 déformés par le coup de feu. Ils les envoyèrent au laboratoire balistique pour analyse. Pendant que les détectives tentaient de trouver des réponses à leurs questions, la crainte des citoyens se transforma bientôt en colère. Ed Cosgrove, le procureur d'Erie County, fut mandaté pour diriger la chasse à l'homme.
La population noire exigeait que la police passe rapidement à l'action. À cause de la nature de ces attaques et de l'évidente instabilité mentale du meurtrier, l'enquête promettait d'être difficile.
Le lendemain, soit le 24 septembre, Joseph McCoy marchait sur une rue résidentielle de Niagara Falls, à 30 km au nord de Buffalo. Devant une église, un assaillant tua l'homme de 43 ans. Un témoin décrivit par la suite le meurtre. C'était un homme blanc élancé portant des pantalons kaki. Une fois encore, les policiers ne trouvèrent sur la scène que des douilles de calibre 22. Ces douilles ainsi que les projectiles recueillis sur la dépouille furent envoyés au service de police centrale d'Erie County pour être comparés aux autres. Le lieutenant Thomas Round menait cette analyse.
Cette affaire présentait tout un défi aux experts en balistique ainsi qu'aux autres spécialistes parce que les projectiles s'étaient décomposés en fragments en pénétrant dans le corps de la victime. Pour les experts, l'identification de l'arme n'en était que plus difficile, sinon impossible.
Il y avait cependant des informations à recueillir des douilles de projectiles. Chaque arme laisse des marques spécifiques sur une balle quand on fait feu. Le percuteur, l'éjecteur et l'extracteur d'une arme laissent des sillons sur le projectile. Pour les experts, c'est en quelque sorte l'empreinte digitale de l'arme. Après analyse, ils conclurent que les projectiles des quatre crimes avaient tous été tirés avec la même arme à feu.
Les marques laissées par le percuteur, l'éjecteur et l'extracteur nous ont vite poussé à conclure que l'arme utilisée était un Ruger de modèle 10-22.
Cette quatrième fusillade secoua de nouveau la population noire, d'autant plus que les enquêteurs ne disposaient pas encore d'un suspect. Devant leur incapacité à trouver des réponses, les autorités locales firent appel au FBI. L'agent spécial Chip Amarozovitz comprit toute l'urgence de cette affaire.
Il était important que le FBI se préoccupe de ce cas, parce que des Noirs avaient été tués dans le secteur et que les gens craignaient d'aller dans les rues de jour comme de nuit.
Un dessinateur du FBI interrogea de nombreux témoins et dressa un portrait robot. Ce portrait fut distribué aux unités de patrouille et diffusé dans les journaux, de même qu'à la télévision. Des policiers le montrèrent également aux citoyens lors de porte-à-porte. Le poste de police reçut des milliers d'appels téléphoniques. Le détective Reagan réalisa alors que ce portrait n'avait qu'agrandi davantage le champ de recherche.
Ce portrait pouvait ressembler à n'importe qui. Suite à sa diffusion, nous avons reçu environ 6000 appels auxquels nous devions donner suite. Notre crainte était de mettre la main sur le meurtrier et de le laisser filer par inattention à cause du trop grand nombre de vérifications. C'était vraiment notre plus grande peur.
Pendant que les détectives du service de police locale suivaient des pistes dans le secteur de Buffalo, les agents du FBI enquêtèrent sur d'autres pistes à l'extérieur d'Erie County. Certaines informations les menèrent en Pennsylvanie, en Ohio, partout en Nouvelle-Angleterre, ainsi qu'au Canada.
Avec autant de pistes, nous devions travailler 24 heures par jour. Nous étions à la recherche d'un homme blanc, agissant en solitaire, qui pouvait tout aussi bien être un voisin ou un autre client de la cafétéria sans qu'on ait le moindre soupçon à son égard.
Le 8 octobre 1980, des ouvriers de la construction en banlieue de Buffalo trouvèrent un taxi abandonné sur la voie de service de l'autoroute de l'État de New York. Comme personne ne venait le récupérer, ils appelèrent la police de l'État. L'agent qui répondit à leur appel inspecta le taxi. Il trouva un porte-monnaie sous le siège avant qui contenait un permis de conduire, mais aucun argent liquide. Il appartenait à un certain Parler W. Edwards, un chauffeur de taxi noir âgé de 71 ans. La clé n'était plus dans le contact et Edwards avait disparu. Le policier décida de fouiller le coffre quand il s'aperçut qu'il était verrouillé. À l'aide d'un pied de biche, il l'ouvrit. Il contenait le cadavre d'Edwards.
Parler Edwards a littéralement été frappé à mort dans un stationnement de la ville de Cheektowaga. Nous avons retrouvé des fragments de son crâne, de sa mâchoire, des dents, ainsi que beaucoup de sang.
Avant de mettre le corps de la victime dans le coffre, le meurtrier avait ouvert sa poitrine pour en extirper le cœur. On ignorait encore s'il y avait un lien entre cet homicide et les autres, puisque le tueur n'avait pas utilisé d'arme à feu.
Le fait que la victime soit noire a semé un certain doute dans l'esprit des détectives. Nous nous demandions si le meurtrier avait décidé de changer sa façon de faire et de mutiler ses victimes.
Les policiers n'en savaient absolument rien. Il était possible qu'il s'agisse d'un cas isolé, ou encore que l'auteur de ce meurtre se soit inspiré de l'autre tueur. L'équipe dont la mission était de retrouver l'assaillant compta bientôt 150 personnes de divers services de police. La ligne téléphonique sonnait 24 heures par jour. Malheureusement, aucun appel ne conduisit les détectives à un suspect potentiel. La tension au sein de la population augmentait sans cesse et l'agent spécial Richard Ferry se sentait de plus en plus impuissant.
Dans cette affaire, il y avait de nombreux meurtres. Rien n'indiquait qui en était l'auteur. Pour un enquêteur, il est toujours extrêmement difficile de se rendre à l'évidence et de reconnaître qu'on n'a rien pu trouver qui puisse nous aider à identifier l'auteur du crime.
Dans la matinée du 9 octobre, un ouvrier roulait en direction des quais de la ville de Tonawanda, à seulement quelques kilomètres de Buffalo. Au bord de la route, il remarqua le corps d'un homme gisant face contre terre dans les herbes hautes. Il s'approcha et constata que l'homme ne respirait plus. Il s'empressa de téléphoner aux autorités. Des policiers furent dépêchés sur la scène quelques minutes plus tard. On identifia la victime. Il s'agissait d'Ernest Jones, 41 ans. Comme Edwards, Jones était chauffeur de taxi. On lui avait tranché la gorge et on lui avait arraché le cœur avant d'abandonner son corps dans cet endroit isolé. C'était le sixième homme de race noire à être assassiné dans la région de Buffalo en moins de trois semaines. Les autorités étaient déconcertées. Avec aussi peu d'indices, il était impossible de savoir si un seul individu était responsable de tous ces meurtres. Un seul aspect reliait les quatre fusillades à la mort des deux chauffeurs de taxi.
D'un côté, nous avions quatre fusillades reliées entre elles. De l'autre, les meurtres des deux chauffeurs de taxi qui étaient identiques, mais qui n'étaient pas nécessairement le fait du même meurtrier. Nous n'étions pas tous du même avis quant à savoir si tous ces meurtres avaient été commis par un seul individu.
Pour les agents fédéraux et les enquêteurs, il était encore impossible de déterminer s'ils étaient à la recherche d'un ou de deux tueurs en série. Le 9 octobre 1980, six hommes d'origine afro-américaine avaient été trouvés assassinés dans la région de Buffalo. On ignorait si tous ces crimes étaient le fait d'une seule et même personne. En seulement trois semaines, ces meurtres en série avaient divisé la population en deux camps, celui des Noirs et celui des Blancs. Le procureur Edward Cosgrove dirigeait cette enquête.
Il est difficile de décrire le sentiment général au moment de ces meurtres. La population noire exigeait que la police arrête au plus vite ces meurtres sordides. Je donnais des conférences de presse auxquelles assistaient des journalistes de quotidiens nationaux. Ils exigeaient tous des réponses, mais je ne pouvais pas leur en donner.
Ces meurtres firent la manchette dans tout le pays. On offrit une récompense de $100,000 à quiconque pourrait conduire les policiers à l'arrestation et à l'inculpation du tueur au calibre 22. Jimmy Carter, qui était alors président des États-Unis, prêta attention à cette affaire. Comme les droits civiques des victimes étaient peut-être en cause, il ordonna l'ouverture d'une enquête fédérale. Les autorités policières locales disposaient maintenant des ressources du FBI. Les agents fédéraux étudiaient les informations recueillies. C'est alors qu'un autre événement tragique secoua la population du nord de l'État de New York. Dans la soirée du 10 octobre, Colin Cole dormait dans un lit à l'hôpital général de Buffalo. Cole était détenu à la prison locale et il se remettait d'une surdose de drogue. L'heure des visites allait se terminer quand un homme traversa le hall du 7e étage à la recherche de la chambre de Cole. Le détenu se mit à haleter. L'homme était en train de l'étrangler. Une infirmière qui distribuait des médicaments surprit l'étrangleur. Il prit la fuite sans avoir eu le temps de tuer sa victime. L'infirmière alerta les gardiens de sécurité, mais c'était déjà trop tard. C'était la 7e attaque sur un homme de race noire en 3 semaines. On ignorait si le tueur au calibre 22 était responsable de cette dernière attaque. Les enquêteurs avaient besoin de quelqu'un qui était plus familier avec ce type de crime. Ils firent appel à John Douglas, du service des sciences comportementales du FBI, pour faire dresser le portrait du tueur en série. Grâce à ce portrait, Douglas pourrait fournir à l'équipe une idée des comportements du tueur au calibre 22. Douglas est actuellement analyste senior pour apbnews.com, un site internet qui diffuse des informations en matière de crime. Il a consacré 20 ans de sa vie à mettre au point l'étude des comportements criminels.
Un profil est censé nous fournir une description plausible de l'agresseur. Il doit nous permettre d'éliminer les fausses pistes. Il peut aussi nous aider à repositionner l'enquête policière et indiquer aux enquêteurs s'ils sont sur la bonne voie.
Douglas monta à bord du premier avion en partance pour Buffalo. Pendant le vol, il se familiarisa avec le dossier de l'enquête.
Je dois marcher à la fois avec les chaussures du tueur et avec celles de la victime pour comprendre exactement ce qui s'est produit au cours de l'assaut. Je tente d'expliquer pourquoi un individu en particulier a été victime du criminel.
Douglas confirma les soupçons des enquêteurs. Le seul lien entre les 6 victimes était leur race et leur sexe. Ces hommes de race noire avaient été choisis comme cible par au moins un assassin. Le seul survivant, Colin Cole, n'avait pas été choisi au hasard puisque le criminel s'était rendu à l'hôpital pour l'étrangler. Douglas croyait que l'assaillant de Cole était peut-être un imitateur, mais cela n'indiquait pas qu'il était l'auteur des autres meurtres. Il fallait pousser l'enquête plus loin. L'expert recréa avec soin chacun des meurtres à partir des indices recueillis. Il se mit ensuite à la recherche des caractéristiques comportementales attribuables à un seul individu.
Quand on a affaire à un tueur en série, on étudie les schémas de ses comportements ainsi que la façon dont il signe ses crimes. La signature est en fait un comportement répétitif. Le tueur se sent obligé de le répéter. C'est en quelque sorte un rituel.
Douglas constata que les comportements au cours des 4 fusillades étaient identiques. Le tueur au calibre 22 avait choisi ses victimes au hasard et les avait surprises en tirant sur elles rapidement et à bout portant, puis il s'était enfui sitôt son forfait accompli, avant même que la victime ne soit morte. C'était toujours des attaques éclairs. Pour les meurtres des chauffeurs de taxi, le schéma de comportement n'était pas le même. Dans ces 2 derniers cas, le meurtrier avait sauvagement poignardé ses victimes, puis il les avait mutilés avant d'abandonner leur corps à une certaine distance de l'endroit où il les avait tués. Le tueur avait passé beaucoup de temps avec les victimes, même après leur mort. Pour Douglas, cela pouvait indiquer que 2 meurtriers étaient à l'œuvre.
Il y a de nombreux types de tueurs en série. Certains ont un rapport personnel avec leur victime, alors que d'autres un rapport impersonnel. Le premier veut regarder la victime droit dans les yeux. Si c'est possible, il passera plusieurs heures avec elle. Il recherche un contrôle et une domination totale. C'est comme ça qu'il obtient l'excitation qu'il recherche.
Les chauffeurs de taxi avaient été victimes d'un tueur qui recherchait un rapport personnel. Ces crimes démontraient une rage et un acharnement qui étaient absents dans les fusillades. Douglas était d'avis que le comportement psychopathologique du tueur se manifestait ici d'une façon différente.
Règle générale, les premiers symptômes d'un tueur en série apparaissent à l'âge de 25 ou 28 ans. Il a une personnalité plus asociale qu'antisociale et il est renfermé sur lui-même. Il développe une obsession pour les armes. Parfois, quand nous les arrêtons, ils sont en possession de quantités d'armes. Si un tel individu travaillait dans le milieu militaire, il éprouverait des difficultés, quel que soit son champ d'activité. Très souvent, d'ailleurs, on ne le garderait pas dans l'armée.
Pour l'expert, il semblait bien que l'ouest de l'État de New York était aux prises avec non pas un, mais bien deux tueurs en série. Il fit part de ses conclusions aux enquêteurs. Comme le champ des sciences comportementales en était à ses débuts dans les années 80, de nombreux policiers avaient des doutes sur le bien fondé des assertions de Douglas.
Certaines personnes perçoivent notre travail comme de la magie vaudou ou de la sorcellerie. Elles se demandent par exemple comment nous pouvons déterminer l'âge de l'assaillant. Or, c'est plutôt facile quand on a travaillé sur un certain nombre de cas.
Grâce à son expérience dans des cas semblables, l'expert put ajouter que le tueur au calibre 22 était sans doute un amateur de chasse qui n'avait occupé que des emplois de subalterne. Il restait maintenant aux enquêteurs à trouver le moyen d'éliminer les suspects en se basant sur le profil. La ville de Buffalo n'était pas la seule de l'État à vivre dans la peur. À New York même, soit à 650 km au sud-est, un assaillant armé d'un couteau terrorisait le centre-ville. Evan Frazier, un résident de banlieue qui utilisait le métro, fut poignardé 3 jours avant Noël. Comme il avait résisté à l'assaillant en se défendant avec ses bras, il survécut à l'assaut. Il signala l'attaque au service de police de la ville. À 13h25, il avait remarqué qu'un autre usager discutait avec une jolie femme. Frazier avait l'intuition que l'homme cherchait à convaincre la femme de le suivre. Mais cette dernière était visiblement agacée par ses avances et elle descendit du wagon à la station suivante. Frazier était alors retourné à la lecture de son journal. Tout d'un coup, l'homme assis de l'autre côté du wagon rejoignit Frazier et se mit à lui taillader l'avant-bras et le poignet avant de prendre la fuite. Frazier fournit une description de son assaillant. C'était un homme blanc d'une trentaine d'années aux cheveux bruns et qui portait une veste bleue. 2 heures plus tard, soit à 15h30, Lewis Rodriguez, 19 ans, marchait dans le secteur ouest du centre-ville de Manhattan lorsqu'un homme de race blanche sauta sur lui en exigeant qu'il lui remette son portefeuille. Rodriguez repoussa ce dernier assaut, mais son assaillant riposta et le poignarda à 2 reprises en pleine poitrine. Avant de mourir, il donna la description de l'homme au policier. Il était de race blanche, avait les cheveux bruns et portait une veste bleue. 3 heures plus tard, c'est le corps d'Antoine Davis que l'on trouva cette fois poignardé à mort devant une banque du centre-ville. À 22h35, Richard Renner mourut à son tour devant un hôtel de la 49e rue. Il avait également été poignardé. À 23h, le tueur était de nouveau dans le métro, à la recherche de sa prochaine victime. Il aperçut alors Carl Ramsey. Dans la pénombre, aucun des passagers ne remarqua qu'on l'avait poignardé. Même s'il saignait abondamment, Ramsey réussit à sortir du métro. Mais à minuit, il rendit l'âme. En moins de 24 heures, 4 hommes de race noire avaient été tués. Les journalistes de New York surnommèrent le tueur le boucher du centre-ville. Ces attaques répétées sur des hommes noirs à Manhattan présentaient de nombreuses ressemblances avec les meurtres du tueur au calibre 22. Les enquêteurs de New York firent appel au service de John Douglas pour faire dresser le profil du meurtrier.
J'ai d'abord fait une analyse des cas en eux-mêmes, sans aucune référence à quelque autre affaire. Mais quand j'ai effectué le portrait du meurtrier, j'ai constaté que c'était semblable au cas de Buffalo. Le sujet s'approchait de ses victimes et les tuait lors d'attaques éclairs.
Il y avait cependant une différence notable. Le boucher du centre-ville utilisait un couteau alors que le tueur au calibre 22 se servait d'un fusil.
Dans ces cas, il n'y avait pas de fusil de calibre 22. Mais cela pouvait s'expliquer par le fait que nous étions dans un secteur densément peuplé et qu'une arme aussi bruyante aurait attiré l'attention sur le meurtrier.
Pour Douglas, le comportement était le même. Que l'assaillant soit armé d'un fusil ou d'un couteau, il procédait de la même façon. À la fin de décembre, le procureur Cosgrove trouva un autre élément qui renforçait l'opinion du psychologue.
Au cours de cette période, il n'y avait pas eu d'autres attaques ici dans la ville de Buffalo. Le tueur au calibre 22 ne s'était pas manifesté.
Dans les premières semaines de 1981, le meurtrier semblait avoir disparu. En janvier 1981, le FBI et les enquêteurs de Buffalo étaient à la recherche du tueur au calibre 22. Ce dernier était recherché pour le meurtre d'au moins 8 hommes de race noire à New York et à Buffalo. Après quelques mois d'enquête, le détective John Regan et son équipe n'étaient pas encore parvenus à trouver un suspect solide.
L'affaire ne progressait pas et nous étions tous déçus. On ne savait pas quelle direction prendre. Nous n'avions aucune idée de l'identité du suspect. Puis tout à coup, quelqu'un a fait un appel déterminant au service des homicides de la police de Buffalo.
L'homme au bout du fil était un officier de la division des enquêtes criminelles de l'armée à Fort Benning, en Géorgie. Le soldat Joseph Christopher, 25 ans, était gardé en détention par l'armée pour assaut sur un collègue. Le 13 janvier 1981, il avait tenté de poignarder un soldat noir enrôlé depuis peu. Pendant sa détention, Christopher avait également tenté de se castrer à l'aide d'un rasoir. Le capitaine Dorothy Anderson, qui soignait le prisonnier, l'avait entendu murmurer qu'il avait tué des hommes de race noire à New York et à Buffalo. Il ne se rappelait plus du nombre de victimes, mais il lui avait confié qu'il n'avait pas pu s'empêcher de les attaquer. Troublé par son histoire, Anderson en informa la division des enquêtes criminelles. Elle rapporta à l'officier qui la rencontra ce que le prisonnier lui avait raconté lors de son hospitalisation. L'officier se rappela alors le communiqué qu'il avait reçu concernant les meurtres de l'État de New York. Il appela le service des homicides de la police de Buffalo, comme le communiqué l'indiquait. Pour le procureur Cosgrove, cela expliquait pourquoi les attaques avaient cessé dans l'État de New York.
Après la macabre découverte du corps du chauffeur de taxi et les quatre meurtres de la ville de New York durant la période des fêtes, les attaques se sont interrompues. Apparemment, c'était au même moment que Joseph Christopher se trouvait en Géorgie dans l'armée.
Le FBI et les policiers disposaient enfin d'un suspect, Joseph Gerard Christopher. L'agent Amarozovitz et son équipe comparèrent sa description au profil du tueur recherché.
C'était assez précis. Il devait s'agir d'un homme de race blanche, au début de la trentaine, plutôt solitaire. Il était possible qu'il soit dans l'armée et qu'il soit hospitalisé pour des motifs d'ordre psychiatrique. Avant d'entrer dans l'armée, il avait occupé des emplois de subalterne. Dès que nous avons obtenu le nom de Joseph Gerard Christopher, nous avons compris que ce profil lui collait parfaitement à la peau.
Les enquêteurs retracèrent des connaissances et des amis du suspect. David Robinson le connaissait depuis plus de 10 ans. Il leur arrivait de pratiquer ensemble le tir à la cible et de chasser le chevreuil près du chalet de la famille de Christopher. Robinson raconta aux enquêteurs que son ami avait une collection d'armes à feu que lui avait léguée son père à sa mort. Une des armes de cette collection était une carabine Ruger de calibre 22. Il n'avait cependant jamais vu Christopher avec une arme de ce calibre au canon tronqué. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de la dernière résidence connue de Christopher. Ils se présentèrent au domicile de sa mère à Buffalo le 22 avril 1981. Dans la chambre à coucher du suspect, les agents du FBI trouvèrent des lunettes à monture métallique ainsi que des vêtements kaki qui correspondaient à la description des témoins. Le profil du FBI dressé par l'expert John Douglas indiquait que le tueur au calibre 22 était probablement fasciné par les armes et le monde militaire. Le sous-sol de Christopher était un véritable stand de tir. Les agents trouvèrent la collection d'armes ainsi qu'un canon d'armes à feu scié. Parmi tout cet attirail, ils trouvèrent également des boîtes de munitions de calibre 22, une cartouche utilisée également de calibre 22, ainsi qu'un chargeur rotatif. Pour l'expert en balistique Thomas Rohn, ces indices étaient significatifs.
La découverte du chargeur du Ruger 10-22 était très importante. Elle appuyait l'hypothèse selon laquelle le tueur avait une arme assez courte pour tenir dans un sac de papier au cours des attaques.
Le chargeur rotatif permettait à Christopher d'avoir à sa disposition toute une charge de munitions. De plus, il pouvait laisser l'arme au bout tronqué dans le sac sans la recharger. Muni d'un second mandat, les enquêteurs fouillèrent le chalet de la famille du suspect à Ellington. Ils effectuèrent des recherches à l'endroit où Robinson et Christopher tiraient sur des cibles. Ils y trouvèrent deux douilles qui portaient la marque d'un percuteur en particulier. On avait recueilli ces mêmes marques sur les douilles recueillies sur les scènes de crime. Les experts en armes à feu du service de police d'Erie County examinèrent les douilles recueillies chez Christopher ainsi qu'au chalet de sa famille. Ils les comparèrent ensuite à celles trouvées sur les quatre premières scènes de crime. Ils en conclurent que ces douilles avaient toutes été tirées avec la même arme à feu. Grâce à cette preuve, l'assistant du procureur John DeFranks put obtenir une mise en accusation d'un grand jury.
Les douilles parlaient d'elles-mêmes. On n'avait qu'à les placer sous un microscope pour obtenir une preuve solide. Il était impossible de l'altérer ou de la modifier.
Joseph Christopher fut envoyé à Buffalo pour subir son procès. Les agents dissimulèrent son visage sous une cagoule pour que les témoins ne puissent pas l'identifier par le biais des médias.
Nous l'avons masqué pour éviter que des témoins ne le voient à la télévision et fondent ensuite leur identification sur cela plutôt que sur leur seul souvenir.
L'un des témoins clés était Madonna Gorney. Elle avait aperçu le tueur le premier soir où il avait fait feu dans le stationnement du supermarché. Le 5 mai 1981, on lui montra Joseph Christopher lors d'une séance d'identification.
J'étais craintive. J'avais peur que l'une ou l'autre des personnes qui défilaient devant nous puissent nous voir pendant la séance.
Gorney était protégée par les spots d'éclairage qui aveuglaient les sujets. Elle put identifier Christopher à deux reprises. Les agents du FBI et les policiers étaient maintenant convaincus qu'ils avaient enfin mis la main au collet du tueur au calibre 22. Le procès fut retardé en raison de l'état mental de l'accusé. En décembre 1981, un juge déclara Joseph Christopher inapte à subir son procès en raison de sa santé mentale. Il fut envoyé au centre psychiatrique de Mid-Hudson pour y recevoir des soins. Le 17 février 1982, on le jugea enfin apte à subir son procès. Le procès s'ouvrit le 6 avril 1982. La population suivait avec intérêt le déroulement des événements.
Les médias faisaient état de l'affaire tous les jours, parfois même minute par minute. C'était ce que la population souhaitait. On voulait des réponses, des informations. Cela a joué en notre faveur aussi, puisque la population est rapidement devenue convaincue que c'était bien le coupable et qu'il n'y avait plus de raison d'avoir peur.
Le jury de l'État trouva Joseph Christopher coupable des meurtres de Glenn Dunn, Harold Green et Emmanuel Thomas. Il fut condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 60 ans. Il ne fut cependant pas poursuivi pour les meurtres de Manhattan. Une question restait toujours en suspens. Christopher était-il celui qui avait poignardé les deux chauffeurs de taxi ? Bien que le profil du FBI ait écarté cette possibilité, Christopher a par la suite donné des détails sur les blessures des chauffeurs de taxi que seul le tueur pouvait connaître.
Nous voulions nous assurer ici à Buffalo et à Erie County que nous répondions aux souhaits de la population par notre professionnalisme et notre compétence. C'est ce que la population attend des policiers et des procureurs. Nous avons pu répondre à ces attentes parce que l'enquête a été couronnée de succès.
Grâce à la science et au travail acharné des détectives, Joseph Christopher ne pourrait plus jamais tuer. Il a passé le reste de ses jours derrière les barreaux. Il est mort à 37 ans des suites d'un cancer du sein, ce qui est très rare chez l'homme.